Et salut à tous et bienvenue dans Parlons Ciné, l'émission où on évoque l'actualité et les sorties ciné de la semaine sur Radio Campus. À notre programme ce soir, le palmarès du Festival International du Film Fantastique de Gérard May qui s'est tenu du 24 au 28 janvier dernier. Un point sur le box-office français, Brad Pitt au casting du dernier film de Quentin Tarantino et les sorties du 7 février au cinéma, ainsi qu'un petit rattrapage sur les dernières sorties de janvier qui aura été un sacré bon début d'année pour le 7e art. À la technique ce soir, il y a Hugo avec moi. Salut Hugo.
Salut Gaël.
Comment tu vas ?
Ça va très très bien. Et toi ?
Ça va très bien. Beau programme, non, je crois, un petit peu quand même. Il y a des beaux films.
Il y a des très beaux films, même.
Il y a des jolis films. Il y en a aussi des mauvais, là, ce coup-ci. Donc, ça va pas être toujours une partie de plaisir. Mais bon, faut bien le faire. Donc voilà, Hugo est avec moi ce soir pour m'accompagner durant cette petite demi-heure où nous parlons ciné. I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. Campus, 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 campus. Et on commence du coup avec les actualités de cette seconde émission. Avec pour commencer le palmarès du Festival International du Film Fantastique de Gérard May 2024 qui s'est donc tenu du 24 au 28 janvier dernier dans les Vosges, là où personne n'entend les festivaliers crier. C'est le très attendu Sleep, premier film du coréen Jason Yu qui a remporté le Grand Prix, ayant mis à peu près tout le monde d'accord, tous les festivaliers sont à peu près d'accord pour ces scènes d'horreur mettant en scène d'effrayantes crises de somnambulisme. Les deux prix du jury ont été remis respectivement à Amenia's Children, étrange série B du portugais Gabriel Abrantes, sorti la semaine dernière et dont nous parlerons tout à l'heure, ainsi qu'au film français En attendant la nuit de Céline Rouzette qui ressuscite le mythe du vampire dans le sud de la France. Ça a un peu mitigé la critique, mais pourquoi pas. Et le prix de la critique et du public ont unanimement récompensé When Evil Lurks de l'argentin Damien Rugna, film de possession ultra gore qui a déjà la réputation d'avoir réinventé son sous-genre. Le Grand Prix Sleep sort en salle le 21 février prochain, c'est le premier film de la compétition à sortir en salle et avoir un distributeur. Il est distribué par Joker's Film, donc on a très hâte de voir ça, c'est très prometteur. Côté box-office en France, le Grand Prix du Festival de Cannes 2023, The Zone of Interest de Jonathan Glazer, dont nous avons dit le plus grand bien lors de notre dernière émission, a fait un meilleur démarrage que Argyle, le film d'espionnage de Matthew Vaughn, avec Henry Cavill, Brisa Sauvard, Sam Rockwell ou encore Dua Lipa au casting, pourtant. Avec 45 002 entrées sur moins de 200 copies pour son premier jour, contre 36 917 sur plus de 600 copies, pour Argyle, pourtant. Zone of Interest domine donc Argyle au box-office, ce qui fait quand même sacrément plaisir au vu de la qualité respective des deux films. On y reviendra, on va y venir. Et enfin, la nouvelle qui a dû faire sacrément plaisir aux fans de Quentin Tarantino, Brad Pitt est annoncé au casting de son prochain et supposé dernier film, puisqu'il a toujours dit qu'il n'irait pas au-delà de 10 films. The Movie Critic, c'est le titre de son ultime long-métrage apparemment, qui devrait suivre les tribulations d'un critique de cinéma dans le cinéma porno du Hollywood des années 70. Ça promet. L'acteur, du coup, déjà vu chez le cinéaste dans Inglourious Basterds en 2009 et Once Upon a Time in Hollywood en 2019, devrait tenir l'un des rôles principaux, peut-être le dit critique, mais c'est pas encore sûr. À voir néanmoins s'il s'agira bel et bien du dernier film de son auteur, puisque depuis, il est quand même déjà un petit peu revenu sur ses dires en disant que c'était peut-être pas son dernier projet. On n'a pas tellement envie de le voir quitter non plus la scène, hein, Tarantino. Hein. Il a jusqu'ici fait plus ou moins un sans faute quand même. Son dernier film, Once Upon a Time in Hollywood, était tout simplement un chef-d'œuvre. Donc franchement, c'est un de ses meilleurs films. Donc vraiment, il est au sommet. Donc ça serait un peu dommage qu'il parte aussi vite, moi je trouve. Mais voilà, c'est la fin des actus de la semaine. Donc place aux sorties. Et on commence avec le nouveau film de Quentin Dupieux, le bien nommé Dali.
Maître, on peut faire une pause un peu, là?
Pff, putain, quel enfer!
Mais ça va pas, la tête? T'es fou de le déranger comme ça, tu sais qui c'est?
Dali est probablement...
On est là!
...le seul artiste encore vivant sur cette planète. La caméra, énorme ou gigantesque? Moteur!
quelques mois seulement après son très bon cru de 2023, Yannick, le très prolifique Quentin Dupieux, est de nouveau de retour avec le très attendu Dali. Je ne vais pas le faire à chaque fois, sinon ça va être compliqué. Son nouveau film présenté du coup en avant-première à la Mostra de Venise 2023. Un non-biopic, atypique dans son attention, comme à peu près tous les films du réalisateur de Rubber, hein, consacré cette fois-ci à l'artiste Salvador Dali. Pour ce nouveau film, du coup, Quentin Dupieux aurait déclaré être rentré en connexion avec la conscience cosmique de Dali, qui lui aurait d'abord ordonné de convoquer plusieurs comédiens brillants pour l'incarner, à savoir Édouard Baer, Jonathan Cohen, Gilles Lelouch, Pio Marmaille, car c'est un personnage trop complexe pour un seul homme. Puis il aurait rendu visite au cinéaste surréaliste Luis Buñuel, hein, notamment réalisateur de Un chien andalou, Belle de jour, pour lui subtiliser quelques images et quelques idées, avant d'être conduit de force par Dali dans ses angoisses les plus profondes et morbides, dans ses rêves aussi, avant de réussir à reprendre de justesse le contrôle de son film pour simplement en faire une modeste déclaration d'amour à l'artiste. On reconnaît Dupieux juste dans sa note d'intention, c'est vraiment lui. Du coup, la note d'intention de Dupieux résume assez bien son Dali, dont la durée concise d'1h17 témoigne encore une fois de la modestie de son cinéaste. Le pitch de départ est très simple. Judith, une journaliste française, incarnée par une Anaïs Desmoustiers qu'on avait déjà vue dans Fumer fait tousser chez Dupieux, et à qui le ton absurde du réalisateur va très bien. Elle rencontre du coup Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire sur l'artiste. Mais durant ce projet, Dali change plusieurs fois de visage, parle de lui à la troisième personne en se surnommant
Dali.
Exactement, merci Hugo. Et le personnage vampirise l'espace du cadre à chacune de ses apparitions, sublimé par l'hommage surréaliste de Dupieux à ce personnage haut en couleur tout en puisant dans le cinéma de Luis Buñuel. Cela donne à l'écran des purs moments de cinéma absurde, tantôt hilarant que ce soit le Dali incarné par Baer qui marche dans un couloir sans fin pour venir à son interview, celui de Cohen qui trouve toutes les excuses possibles pour ne pas parler à Julie de son projet de documentaire au téléphone, notamment une pluie de chiens morts, c'est une des scènes les plus hilarantes du film, ou encore des séquences de rêveries absurdes qui se confondent avec celles dans le réel où un prêtre chevauche un âne et se réveille ensuite en disant bah, « c'est ainsi que je me suis réveillé ». À chaque fois, il y a une espèce de gag comme ça où le prêtre se réveille, on ne sait jamais trop si on est dans le rêve ou dans le réel, et les points de rupture sont des électrochocs qui déclenchent à la fois derrière, mais aussi parfois des effrois, parce que Dali est aussi parfois profondément angoissant, notamment lorsque Dupieux nous fait part de ses angoisses existentielles en tant que cinéaste, celle de la panne d'inspiration, de faire un film nul, en l'occurrence sur Dali, dans le cas de Judith, son double filmique féminin. Dupieux nous assène donc aussi de visions parfois déstabilisantes, surtout lorsqu'il plonge à fond dans le surréalisme et de manière très inspirée, comme cela n'était probablement pas arrivé dans sa filmographie depuis Réalité, son meilleur film selon moi. Dali parvient donc à condenser tous les courants de la filmo de Quentin Dupieux, autant les scénettes comiques hilarantes d'un mandibule, d'un fumé fait tousser, que ses questionnements plus existentiels comme dans Incroyable mais vrai, angoissant et morbide mais qui témoigne de la maturité d'un cinéaste qui n'a plus besoin de prouver qu'il est un artiste tout aussi surréaliste que Dali ou Buñuel, finalement. Mais il leur rend ici un hommage aussi humble que personnel et qui ne ressemble à rien d'autre dans le paysage cinématographique actuel, incarné par cinq comédiens brillants aux côtés d'une Anaïs Desmoustiers à qui le ton absurde Dupieux va encore une fois ravir, et un Romain Duris décidément très en forme depuis Le règne animal. Il joue une saloperie de réalisateur, il est parfait. Dali a le droit au plus bel hommage qu'on pourrait lui rendre au cinéma dans un non-biopic, comme l'appelle son auteur, qui ne cherche jamais à comprendre Dali, mais à le faire ressentir dans une expérience de cinéma absurde, concise, hilarante et pertinente, du Dupieux comme on l'aime, et c'est actuellement à l'affiche du Ciné Saint-Louis.
Il y a une chose que je déteste encore plus que les enfants, c'est les dessins de les enfants. Ça, je ne peux pas les supporter.
C'est moi, un plus vieux.
Un vieux, vous ?
Oui, très vieux, très laid. Une chaise roulante.
Alors voilà, ça commence en enfer.
En enfer.
C'est inadmissible.
Pablo ! Voilà !
Monsieur Dali, s'il vous plaît.
Mais je ne vous entends pas. Là, en ce moment même, il y a une pluie de chiens morts.
Là, c'est Dali.
Je voulais pas vous décourager, vous avez l'air tout excité par le projet, mais entre nous, une boulangère qui veut faire un documentaire sur un peintre.
Et maintenant, on passe à une autre sortie de la semaine dernière, pour le coup, pour conclure les sorties de janvier. Un film qu'on va être un petit peu moins enthousiaste sur celui-là, pourtant on a tort, Matthew Vaughn, mais là c'est un peu trop. Il s'agit de Argyle.
Vous êtes aussi élégant quand vous dansez, j'espère.
Il n'y a qu'une façon de le savoir.
Put on your red shoes and dance the
Nous ne sommes pas si différents, vous et moi, agent Argyle.
Un coup de main, une seconde.
Le roman est sensationnel, ma chérie, mais...
C'est quoi la suite ?
Ça s'appelle un cliffhanger, maman ?
Non, Ellie, ça s'appelle se débiner.
3 ans après, du coup, le préquel de sa saga Kingsman, The Kingsman, première mission, le cinéaste Matthew Vaughn est de retour avec Argyle, annoncé ouvertement comme une nouvelle licence de film d'espionnage dans la même veine que Kingsman, donc Service Secret. Avant d'être un réalisateur de renom dans le paysage des adaptations de comics avec Kick-Ass ou encore X-Men Le Commencement, ou encore aussi la saga Kingsman qui est aussi adaptée d'un comics, Matthew Vaughn était avant tout le producteur des films de Guy Ritchie, réalisateur de Snatch, Arnaque, Crime et Botanique, donc un réalisateur qui n'est pas très différent finalement dans le ton. Ce n'est donc pas anodin si le réalisateur de Layer Cake s'est inscrit dans la veine d'un cinéma pop défini par une certaine coolitude et un goût pour les récits pulp qui n'est pas sans rappeler des cinéastes comme Quentin Tarantino et autres de ses consorts. Après avoir signé l'une des meilleures adaptations de Neil Gaiman avec Stardust, le mystère de l'étoile, toujours l'un des meilleurs films de fantasy des années 2000 au passage. Vaughn s'est surtout démarqué dans le comic book movie du coup avec Kick-Ass, puis avec l'un des meilleurs X-Men tout simplement. Mm. On est d'accord, Hugo ?
On est d'accord.
Puis dans le cinéma d'espionnage avec Kingsman, dont découvrir la première suite réalisée par le cinéaste qui s'était pourtant juré de ne jamais faire de suite à ses films. Si Kingsman, le Cercle d'Or, était une suite plutôt réussie à son premier film en soi, c'est avec son préquel, The Kingsman, que le style de Vaughn a commencé à trouver ses premières limites, un préquel qui ne savait jamais trop trancher entre le ton foutraque des 2 premiers opus et un ton plus sérieux par rapport au contexte historique qui servait de toile de fond à l'origine story de cette franchise dans laquelle le réalisateur a commencé à s'enfermer et tourner sérieusement en rond. Argyle ressemblait donc ce papier à l'occasion idéale pour Vaughn de faire une parenthèse avec cet univers, de se renouveler dans un film d'espionnage librement adapté d'un roman d'espionnage écrit par une autrice inconnue, Ellie Conway, une autrice de renom, incarnée dans Argyle par Bryce Dallas Howard, le vrai roman devenant la matière première d'un film méta, coécrit avec le scénariste Jason Fox. Conçu donc comme un véritable hommage au genre, avec la mort aux trousses d'Hitchcock en influence principale dans sa structure scénaristique, Argyle démarre donc avec une scène d'ouverture où Matthew Vaughn s'auto-parodie en citant ouvertement l'esthétique de ses Kingsman et son amour pour la saga Bond. On retrouve Henry Cavill, désormais ex-Superman et précédemment espion britannique dans Agents très spéciaux de Guy Ritchie, justement, affublé ici d'une coupe de cheveux en brosse ridicule qui danse avec la chanteuse Dua Lipa dans une mission où sa couverture est compromise. Une première scène plutôt amusante où l'on retrouve le goût du kitsch outrancier qui est propre à Vaughn et son style. Puis on revient à la réalité dans laquelle Ellie Conway écrit les romans Argyle et se retrouve en panne d'inspiration pour conclure sa saga d'espionnage littéraire. On serait presque tenté d'y voir un portrait méta de son réalisateur qui serait épuisé par sa propre création avec la saga Kingsman. Mais très vite, une fois que Ellie rencontre un véritable espion dans le train, incarné par Sam Rockwell qui semble toujours s'amuser quoi qu'il fasse, et qu'elle se retrouve poursuivie par la Division, une agence d'espionnage dont elle prédit tous les faits et gestes dans ses romans, dont le méchant, on va dire le chef méchant, on va dire, est incarné par Bryan Cranston, qui s'amuse aussi, on comprend du coup que Vaughn va passer les 2 prochaines heures à s'autociter. On se retrouve même à halluciner devant la laideur de certains effets spéciaux, de certaines scènes d'action, habituellement extrêmement chiadées chez le réalisateur. Les twists, plus gros et bêtes les uns que les autres, s'enchaînent à vitesse grand V dans une écriture grossière où on ne sait jamais vraiment si Vaughn, encore une fois, s'auto-parodie ou rend hommage à son propre style qui recycle avec une fainéantise abyssale et son génie. Puis arrive le coup de grâce qui nous est assené dans une scène post-générique où l'on comprend que Argyle n'est rien de plus qu'une nouvelle licence dans la même lignée que Kingsman, dont il se veut un espèce de reflet faussement méta qui ne fait que recycler la filmographie de son réalisateur dans un maxi best-of indigeste au possible. Reste des choix de casting pertinents qui nous sauvent in extremis, de l'ennui lorsque Samuel Jackson semble autant s'amuser que dans le premier Kingsman dans un rôle pourtant très secondaire, ou que Bryan Cranston s'ordonne à cœur joie dans le rôle du méchant. Cela nous évite au moins d'hurler devant l'auto-caricature d'André Cavill sur lui-même qui se fait plus de mal que de bien, je pense, décidément, sa carrière ces derniers temps. C'est assez compliqué, depuis son renvoi de DC, quand même, le pauvre.
Et il y a également John Cena.
Ouais, mais bon, il est tout aussi inutile qu'André Cavill dans le film. Donc bon, en même temps, c'est vraiment compliqué, quoi. Donc, éviter.
J'ai l'impression que c'est un peu... un casting sensationnel, quoi, d'avoir pris John Cena, Henry Cavill, Dua Lipa, tu vois.
Totalement. Surtout que Dua Lipa est dans une seule scène, la scène d'ouverture, qui est la meilleure du film, littéralement. Après, il y a tout ce truc du reflet un peu méta, la fiction dans le réel, tout ça, qui est imbriqué. Enfin, ça aurait pu être intéressant de prendre un mec comme Cavill et le ridiculiser un petit peu, alors qu'il a incarné justement une espèce de... Bah, ça a été Superman, quoi, voilà. Donc quand même, tu te dis, bon, ça, on pourrait prendre ce mec-là, puis le parodier qui s'auto-caricature lui-même. Mais le truc, c'est que ça marche jamais, en fait. C'est jamais pertinent, t'as juste l'impression que c'est grossier, en fait. Tout est grossier, tout est trop gros, et du coup, tu prends aucun plaisir devant le film, moi, je trouve. Mais bon, après, peut-être que les amateurs du film d'espionnage vont aimer, mais... Donc voilà, c'est le pire film de Matthew Vaughn à ce jour. Je suis presque un peu triste de le dire, parce que j'adore Matthew Vaughn, mais honnêtement, c'est mon déconseil de la semaine.
Wow, il y a un chat là-dedans.
C'est pas vrai. Vous êtes Ellie Conway.
L'autrice de la saga Argyle, Ellie Conway.
Je suis votre plus grand fan.
Ah oui? Et vous, c'est quoi, votre boulot?
L'espionnage.
Vous pouvez me signer mon livre?
Démonstration. J'adore ce roman. Venez.
Qui, vous m'expliquez?
De vrais espions.
Pourquoi ils s'intéressent à moi?
Parce que vous êtes sacrément doué pour prévoir l'avenir, Ellie. L'action de votre nouveau roman a vraiment eu lieu et vous avez mis un coup de pied dans une grosse fourmilière.
J'ai de très gros ennuis, maman. Alors ça y est, tu prends de la drogue.
Je veux toutes les équipes à leur trousse. Il faut qu'elle écrive le nouveau chapitre. Je déteste ce chat. Il est temps que je vous dévoile qui est vraiment l'agent Argyle.
Oh mais non.
Oh mais non.
Oh mais non.
Et maintenant, on passe à un truc un peu plus sympathique, le prix du jury du dernier festival de Gérard May dont nous parlions tout à l'heure dans les actus, Amelia's Children.
Tiens, ton cadeau. Mais ça porte malheur.
Ancestry va analyser votre ADN.
C'est bien toi. J'ai un frère jumeau. Il a été enlevé quand il était bébé.
Mon frère Ed.
C'est génial de se rencontrer.
Tiens, c'est toi ici. C'est maman.
Elle est magnifique.
Est-ce que tu veux la voir ?
Prix du jury du coup au dernier festival de Gérard May, Amelia's Children est le second long métrage du cinéaste portugais Gabriel Abrantes après Diamanto, qui était déjà un ovni un peu étrange, qui était passé par l'étrange festival. C'était un espèce de film avec une histoire de footballeur ou un truc comme ça, c'était très étrange, mais c'était déjà intéressant pour un premier film. Orphelin depuis sa naissance, Edward découvre à l'âge adulte qu'il a un jumeau et une mère qu'il ne connaît pas. Avec sa petite amie Riley, il part les rencontrer dans une magnifique demeure isolée dans une région recluse de l'Italie, alors qu'ils sont américains. Mais après des retrouvailles touchantes, le jeune couple se rend compte que la famille d'Edward cache un monstrueux secret. La visite va donc tourner au cauchemar. Pitch de départ en soi très basique, dans un film de genre qui n'est pas sans rappeler un petit peu Rosemary's Baby ou L'Exorciste, un peu dans son espèce de délire un peu autour des codes sataniques, rituels autour des bébés, etc. Avec une esthétique 70s et un scénario qui en soi est très basique, pour pas dire franchement très prévisible. On devine au bout d'un quart d'heure plus ou moins ce qui va se passer. C'est un peu une sorte de relecture aussi du mythe des sorcières un petit peu. Voilà, c'est rien de très original, mais Amelia's Children se démarque quand même par l'étrangeté de son ton comique, qui fait parfois irruption pour se mêler à l'horreur dans un film qui cultive une sorte de malaise avec une plutôt belle maestria. On ne sait jamais trop à chaque fois si on doit rire ou être horrifié de la situation. Et arriver à cultiver un tel malaise comme ça, c'est quand même assez rare, donc c'est plutôt réussi. C'est quand même inégal en termes d'écriture, c'est parfois très lourd, mais ça reste une belle série B dans le genre qui ne démérite pas sa place au palmarès de Gérard May 2024. À voir les autres films de la compétition, il y a quand même When Evil Lurks qui apparemment a vraiment roulé sur tout le monde. Voilà, donc c'est toujours en salle. Voilà, donc si jamais vous voulez vous faire une petite série B d'horreur plutôt bien codifiée et qui en même temps ose certaines choses un petit peu rares dans le genre, et bah écoutez, ça peut faire le café. Donc bah on vous le conseille quand même.
La vision qui te hante, mon frère, ça veut simplement dire que tu es de la famille.
Réveille-toi, putain!
Je rêve de ce moment depuis le jour où tu as été enlevé. Mon fils.
Est-ce que c'est le passé que tu vois?
Et bouh, le jumpscare qui fait peur. c'était prévisible. Et maintenant, on passe à la dernière sortie de la semaine avant la reco. Il s'agit du documentaire d'animation They Shot the Piano Player.
It was 1959. The bossa nova in Brazil changed the history of music. Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Dizzy Gillespie, Stan Getz, even Frank Sinatra. The entire world began singing and dancing to Brazilian music.
I read Jeff's article on the bossa nova rage of the 1950s. I asked Jeff to take things a step further. The story, however, became more complicated.
One day, I came across a name unknown to me. Who's Tenorio Jr.?
Tenorio was one of the top figures of samba jazz during the bossa nova years.
What happened to him?
Very strange story. He disappears just like this.
Réalisé par Fernando Trueba après l'oubli que nous serons en 2020, They Shot the Piano Player marque la nouvelle collaboration du cinéaste avec le dessinateur Javier Mariscal après Chico Herita en 2011 pour un documentaire animé. Une forme de cinéma hybride souvent utilisée dans le paysage du cinéma documentaire pour représenter ce qui n'est pas représentable en live action en termes de reconstitution, qu'il s'agisse de la représentation des camps de la guerre civile espagnole dans le film d'animation français Joseph de Aurel, ou l'autobiographie Valsaï Bachir d'Harry Folman qui permet au cinéaste de reconstituer ses souvenirs douloureux de soldats enfouis en son inconscient sous la forme de faux souvenirs et de rêves étranges. Mais dans le cas de Die Shot de Piano Player, l'animation permet de reconstituer une époque perdue, révolue, celle des années 60 où la bossa nova, genre musical issu du croisement entre la samba et le jazz, est née dans les bars de Rio de Janeiro, qui rouvre grâce à la magie d'une animation économe et sobre, mais somptueuse dans sa forme et ses couleurs chaudes, alternant avec une palette de couleurs plus proche des albums de Tintin lorsque le récit se déroule au présent, et où l'on suit un journaliste du New Yorker, incarné vocalement par un Jeff Goldblum très investi dans le projet, lui-même musicien et passionné de musique, de jazz, un journaliste qui enquête sur la disparition mystérieuse à la veille d'un coup d'État en Argentine de Francisco Tenorio Jr., pianiste brésilien virtuose qui aura contribué à l'aura de ce mouvement musical révolutionnaire, synonyme d'une période éphémère de liberté créatrice dans l'histoire de l'Amérique latine durant les années 60 et 70. Bien aidé par une animation envoûtante qui sublime une véritable déclaration d'amour au jazz et à la bossa nova, Die Shot de Piano Player est donc à la fois une ode mélancolique à une époque perdue, mais aussi un thriller politique palpitant qui rend un vibrant hommage à un artiste pourtant trop oublié, dont le seul crime aura été d'être un pianiste virtuose, dont l'histoire a été ressuscitée par l'animation et l'excellente performance vocale de Jeff Goldblum. Un plaisir pour les yeux et les oreilles, actuellement à l'affiche au cinéma Orson Welles de la Maison de la Culture d'Amiens. Donc si vous aimez le jazz, bah foncez.
Eu não saberia definir Tenorio, não.
Ele apareceu assim como um relâmpago na música brasileira aqui no Rio.
O toque musical dele não me sai também do ouvido, né?
Era uma coisa absolutamente estranha.
They stopped a golden age right in its tracks.
Oh,
All that was left were the memories of a handful of people.
I hope this will rescue him from falling into oblivion.
Tenorio did not deserve to be forgotten.
Et enfin, on termine sur une petite reco en bref de la semaine avec la ressortie de Dune première partie.
Les étrangers ravagent nos terres. Je n'ai toujours connu que leur cruauté envers mon peuple. Qu'adviendra-t-il de notre monde ?
Tu pars demain alors ?
Oui, je pars demain avec les éclaireurs.
J'aimerais que tu m'emmènes avec toi.
T'essaies de m'envoyer devant la cour martiale ?
Je peux te faire confiance. J'ai fait des rêves dernièrement. À propos d'une fille, tu étais tombé au combat. J'ai eu une vision.
Les rêves font de bonnes histoires, mais le plus important se passe quand on est éveillé.
À l'occasion du coup de la sortie le 28 février prochain de Dune deuxième partie, la première partie du space opéra grandiose réalisé par Denis Villeneuve ressort dans les salles à partir du 7 février. L'occasion parfaite pour découvrir ou redécouvrir sur grand écran cette excellente introduction à l'univers dense de Frank Herbert avant une seconde partie très attendue qui promet d'être plus épique, avant peut-être un troisième chapitre d'ores et déjà annoncé par le réalisateur de Blade Runner 2049 qui souhaite achever sa trilogie sur l'histoire de Paul Atreides incarné par Timothée Chalamet aux côtés de Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin ou encore Jason Momoa. La deuxième partie compte également des nouveaux venus, notamment Austin Butler, Florence Pugh, Léa Seydoux ou encore Christopher Walken. Bref, en attendant cette suite très attendue dans les salles, Dune ressort en salle cette semaine avec notamment des premières images exclusives de la deuxième partie en guise de scène post-générique. Donc restez jusqu'au bout, ça vaudra plus le coup que pour les derniers Marvel.
Tu es l'avenir de la maison Atreides.
Tu dois être prêt.
Nul appel ne saurait rester sans réponse, nulle confiance ne saurait être trahie.
Ils sont pas humains, ce sont des brutes sanguinaires.
Et si je ne l'étais pas?
Tu seras toujours ce qu'il y a de plus important pour moi.
Allez !
Mon fils.
Je te connais.
Et parlons ciné, c'est donc fini pour ce soir. Je remercie Hugo de m'avoir accompagné ce soir à nouveau à la technique.
Merci
Hugo, et puis merci d'avoir débattu un petit peu avec moi sur les films aussi. Voilà, c'était cool. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir sur Radio Campus, là où nous parlons ciné. Salut à tous et à la semaine prochaine. Ciao.